Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Philippe Robuchon.
Bonsoir Virginie, bonsoir à toutes et à tous. Les écolos furieux après une décision du gouvernement sur le glyphosate. Pour protéger les populations et pour la première fois vont être créées des zones d'exclusion entre les cultures traitées aux pesticides et les habitations. Mais cette zone ne ferait qu'entre 5 et 10 mètres. Beaucoup trop peu, disent la plupart des associations de défense de l'environnement. C'est même se foutre de la gueule du monde, dit Yann Arthus-Bertrand, que vous entendrez dans un instant. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, lui répondra, il est l'invité de ce RTL Soir. Un premier pas de géant vers la paix, voilà comment Donald Trump qualifie l'échange historique de prisonniers qui a eu lieu aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, deux pays en conflit depuis 5 ans. Parmi les libérés, le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, le monde de la culture, réclamait sa libération. Dans ce journal également, le moral en berne des militants La République En Marche à propos des querelles de candidats avant les municipales. Et puis bien sûr, les bleus de Didier Deschamps, les bleus du foot, bien décidés à battre l'Albanie tout à l'heure en match éliminatoire de l'Euro. Basket, les Français sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde grâce à leur victoire sur la Lituanie 78-75. Les courses cet après-midi avaient lieu à Vincennes. Pour gagner le quintet, il fallait jouer le 11, le 10, le 8, le 7 et le 4. À la fin de ce journal, les pronostics de Bernard Decroix pour le quintet de demain à Longchamp. Bonsoir Armelle Lévy.
Bonsoir.
À 18h25, Mon métier, ma passion, votre rendez-vous avec des professionnels passionnés. Où nous emmenez-vous ce soir?
À Paris, chez le dieu de la tapisserie. C'est normal, il se nomme Arnaud Seigneur et en plus, il a restauré les salons de l'Élysée.
À tout à l'heure. Encore des incendies aujourd'hui dans le sud de la France, attisés par un fort mistral. Une centaine d'hectares de pinèdes ont brûlé au nord de Narbonne. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Quelle est la tendance météo pour les prochaines heures?
Il y aura encore du vent ce soir et surtout toute la journée de demain avec des rafales de mistral et de tramontane de l'ordre de 70 à 80 km/h en pointe entre le Roussillon, la Provence et la Corse. Côté ciel, ça s'arrange un petit peu, mais il fera toujours aussi frais.
Merci Valérie. Prévision complète dans un quart d'heure.
RTL Soir.
Avant de développer ces titres, un mot de la situation de la compagnie aérienne Aigle Azur. Vous le savez, depuis hier soir, la deuxième compagnie française a annulé tous ses vols. Elle est placée en redressement judiciaire. On devrait savoir lundi s'il y a des repreneurs. En attendant, c'est la galère, le mot est faible, pour plusieurs milliers de passagers qui se retrouvent en rade, la plupart du temps au Maghreb. Plusieurs milliers de personnes seraient actuellement à la recherche d'une solution pour rentrer à Paris via d'autres compagnies. Évidemment, c'est la même chose dans l'autre sens. Parmi ces passagers désemparés, Sabrina, cette jeune Algérienne qui a fait ses études en France, doit absolument rentrer à Paris avant lundi matin, mais elle est bloquée à l'aéroport d'Alger.
Je devais commencer ma mission à un tout nouvel emploi lundi. Donc je me retrouve dans l'obligation de devoir décaler ça, pourvu que ça ne me porte pas préjudice. Je suis vraiment très inquiète. Je suis à l'affût de la moindre occasion pour pouvoir rentrer à Paris, ne serait-ce qu'au courant de la semaine prochaine. J'envisage même de faire des escales, passer par la Tunisie ou par le Maroc, que sais-je. J'ai même pensé à prendre le bateau, faire Alger-Marseille, puis ensuite Marseille-Paris en train. Donc je n'ai pas d'autre choix que de prendre un nouveau billet, mais prendre encore un billet et puis que ça me coûte un bras. En fait, c'est tout simplement impossible pour moi de payer 300 euros pour rentrer à l'heure actuelle. Franchement, ça me gave. C'est pas possible de faire ça. Je me sens vraiment abandonnée.
Sabrina, une jeune Algérienne bloquée actuellement à l'aéroport d'Alger. Elle était jointe pour RTL par Thomas Dulin. Le glyphosate est donc à l'origine d'une nouvelle passe d'armes entre les écolos et le gouvernement. Pour la première fois, et pour protéger les citoyens d'éventuelles nuisances, l'exécutif a décidé de créer une zone d'exclusion, une distance minimum entre les cultures traitées aux pesticides et les habitations. Se basant sur une étude scientifique de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, cette distance minimale a été fixée à 5 mètres pour les cultures basses comme les légumes et à 10 mètres pour les cultures hautes comme les céréales ou les arbres fruitiers. Seulement voilà, la plupart des associations de protection de l'environnement jugent cette distance ridicule. Il faudrait, selon elles, au moins 150 mètres. Écoutez, notamment la colère du grand photographe cinéaste Yann Arthus-Bertrand.
C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Vous savez, ça me fait penser un peu à l'amiante. Il a fallu 50 ans pour s'apercevoir que l'amiante était dangereux. Il y a quand même 50 paysans aujourd'hui dont le Parkinson a été reconnu comme maladie professionnelle. Ça veut dire quelque chose. Il y a plus en plus de maladies, de troubles cognitifs, de cancers, de troubles de fertilité. On ne prétend pas que les pesticides sont l'unique cause, mais ils jouent un rôle, petit, grand, moyen. Ça reste à déterminer, mais nous en savons assez pour agir. Je ne comprends pas que les lobbies agricoles soient plus importants que la santé des Français. Français. Là, je pense que vraiment, le gouvernement ne joue pas son rôle de protection de la santé des citoyens.
Il y en a Artus Bertrand, notez-le, que l'on retrouvera demain soir à 19h05 pour sa nouvelle émission On refait la planète sur RTL. Il était joint par Agathe Langlais. Bonsoir Didier Guillaume.
Bonsoir.
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, merci d'être en ligne avec nous sur RTL. Le gouvernement ne joue pas son rôle de protection des citoyens, vient de dire Yann Artus Bertrand. Que lui répondez-vous ?
Mais je lui réponds que c'est tout l'inverse. Nous sommes un des premiers pays en Europe à faire cela, à mettre en place des zones de non-traitement devant les habitations. Dans le précédent quinquennat, il avait déjà été mis des zones de non-traitement devant les écoles, devant les maisons de retraite. Mais c'était juste un tout petit peu là, le choix du gouvernement, c'est de dire, avec la majorité parlementaire, dans le cadre des débats que nous avons, c'est de dire on va mettre des zones de non-traitement devant toutes les maisons, sauf là où il y a des chartes de riverains où ils se mettent d'accord. On verra comment ça se passera, mais c'est pas un choix politique que nous faisons. Nous nous appuyons sur l'ANSES, l'autorité de sûreté sanitaire des aliments. L'objectif du gouvernement, c'est de protéger la santé de ses concitoyens. On a le débat aujourd'hui qui est polémique sur 100 mètres, 150 mètres. On aurait pu dire 200, 300, 400. Il y a aujourd'hui des gens qui veulent arrêter immédiatement les produits phytopharmaceutiques. Nous, nous disons que nous ne voulons pas aller dans cette direction immédiatement. Ce gouvernement, il travaille à la fois pour la transition agroécologique et à la fois pour la protection des Français.
Alors, le décret donc va être soumis, si j'ai bien compris, pendant 3 semaines à une consultation du public, hein, sur le site de votre ministère, mais aussi sur celui du ministère de la Santé et de la Transition écologique. C'est une sorte de référendum, en fait. Que va-t-il se passer si le non l'emporte, si les gens hostiles sont plus nombreux?
C'est pas oui et non, c'est pas un débat comme ça. Vous savez, ce genre d'enquête publique a lieu régulièrement dans tous les départements, dans toutes les communes de France. Dès qu'il y a un gros investissement à faire, les maires sont obligés de soumettre ça en enquête publique lorsqu'il s'agit de faire une route, de faire une déviation, de faire une place, etc. Donc c'est habituel. Là, c'est la Commission nationale du débat public qui va gérer cela. Nous nous appuyons, nous présentons les conclusions de l'ANSES qui indique qu'il faudra mettre des zones de non-traitement pour protéger la santé des Français à 5 et 10 mètres, 5 mètres pour les cultures basses, 10 mètres pour les cultures hautes. Et puis ceux qui ne seront pas d'accord avec cela devront dire pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire en s'appuyant sur des arguments. Et puis après, une fois que la synthèse de ce débat aura lieu, le gouvernement prendra ses responsabilités comme les maires prennent leurs responsabilités dans les communes, comme les présidents de département le font dans leur département.
Monsieur le ministre, pour revenir à des arguments plus économiques, il y a quelques jours, je vous ai entendu dire une zone d'exclusion de 150 mètres, ce serait une folie pour les consommateurs parce que les agriculteurs français ne seraient plus à même de fournir notre autonomie alimentaire. En clair, on serait obligé d'importer ce qu'on mange.
Non mais vous voyez bien que s'il fallait amputer les champs français de 150 mètres partout, ça veut dire, on est en train de regarder ce que ça peut donner, mais on me dit que ça pourrait être entre 20 et 30% de la surface agricole cultivée qui serait amputée. Alors bien sûr qu'il faut la faire muter, bien sûr qu'il faut faire cette transition écologique, cette transition agroécologique, mais 150 mètres de zones non traitées dans certains endroits, ce serait oui un drame parce que ça amputerait la production agricole.
Merci Didier Guillaume d'avoir été en ligne dans RTL Soir, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci.
Merci à vous.
18h08 sur RTL. Dans un instant, la suite du journal. Un spectaculaire échange de prisonniers aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine.
RTL Soir.
Intermarché.
Fiat.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
Moscou et Kiev ont donc procédé aujourd'hui à un spectaculaire échange de prisonniers. C'est le premier signe de détente entre les deux pays qui sont en conflit depuis 5 ans. 35 prisonniers de chaque nationalité ont retrouvé la liberté. La communauté internationale se félicite de ces libérations. Paris salue une volonté de renouer le dialogue, notamment Emmanuel Macron qui, il y a quelques minutes sur Twitter, a écrit « Nous avons toujours été à ses côtés ». Parmi les hommes qui ont retrouvé cette liberté aujourd'hui, le cinéaste Oleg Sentsov, je vous le disais. Ça faisait 5 ans qu'il était en prison, depuis qu'il avait protesté contre l'annexion de la Crimée. L'Europe et le monde de la culture réclamaient sa libération. À Kiev, pour RTL, la correspondance de Stéphane Sioran.
C'est un homme radieux qui est descendu de l'avion qui le ramenait de Moscou. Oleg Sentsov a juste prononcé quelques mots de remerciement, réclamé la libération des prisonniers restés en Russie. Puis, sur le tarmac de Kiev, il est tombé dans les bras de sa fille, adolescente, qu'il n'avait pas vue depuis plus de 5 ans. Le cinéaste ukrainien avait été arrêté en mai 2014 à Simferopol, en Crimée, accusé de planifier un attentat contre une statue de Lénine. En 2015, après un procès qualifié de stalinien par les observateurs, il avait été condamné à 20 ans de colonie pénitentiaire, une peine destinée à contrer toute velléité de résistance à l'annexion de la Crimée par la Russie. Seulement, Oleg Sentsov est devenu un symbole de résistance dans toute l'Ukraine face à l'agression russe. La communauté internationale et le monde du cinéma se sont mobilisés pour lui. Son retour en Ukraine, négocié entre les dirigeants des deux pays, pourrait ouvrir une phase de dégel entre Moscou et Kiev.
Stéphane Sion à Kiev pour RTL. En France, plusieurs milliers de gilets jaunes sont descendus dans la rue ce samedi, notamment à Montpellier où des heurts ont éclaté. Une voiture de police a été incendiée. Rassemblement également à Rouen avec là aussi des incidents. À Toulouse, Lille, Brest, Strasbourg ou encore à Paris où un petit cortège s'est formé autour des Invalides. La police a procédé à plusieurs interpellations. À Bordeaux, la République En Marche a lancé aujourd'hui son campus des territoires. 3000 militants, une sorte d'université d'été, où pour l'instant, il a surtout été question des prochaines élections municipales. Avec cette question, combien y aura-t-il de candidats dissidents qui, à l'image de Cédric Villani à Paris, oseront défier le candidat officiel? En fait, au-delà de cette question, c'est tout le mode de gouvernance de LREM qui est en cause. De nombreux militants ne supportent plus les décisions venues d'en haut, et cela se ressent forcément sur leur morale. À Bordeaux pour RTL, William Galibert.
Ils exigent des preuves d'amour. Et ce qui est assez nouveau ici à Bordeaux, c'est que les marcheurs n'hésitent plus à hausser le ton face à la direction de leur mouvement. Trop vertical, dit l'un, pas assez transparent, ajoute un second. Marre des petits arrangements pour les municipales, complète Violette, marcheuse des débuts et militante dans le Nord.
J'ai l'impression qu'on doit vraiment revenir aux valeurs de début. On a passé notre temps pour les élections européennes à aller taper aux portes et à être à l'écoute des Français. Il est également temps, je pense, d'être à l'écoute des marcheurs, du propre mouvement, parce qu'on veut redonner espoir en la politique. Et si on dégoûte les propres marcheurs au sein du mouvement de la politique, je ne vois pas comment on peut réussir notre pari.
Militants fâchés mais pas frondeurs, disent-ils, et militants chouchoutés. Entre le buffet champêtre et les rencontres avec les ministres du gouvernement, le délégué général d'En Marche a annoncé de nouveaux statuts, promis plus de démocratie locale. C'est bien l'un des objectifs majeurs de ce week-end, convaincre les adhérents qu'En Marche n'est pas encore devenu un parti comme les autres.
William Galibert à Bordeaux pour RTL. Il y a un an, jour pour jour, Sophie Le Tan, jeune étudiante de 20 ans, disparaissait à Schiltigheim en Alsace. Depuis, un quinquagénaire au lourd passé judiciaire, Jean-Marc Reiser, est soupçonné. On a retrouvé chez lui des traces d'ADN de la jeune femme, mais il continue de nier. Tout à l'heure à 19h, une marche à la lanterne va avoir lieu sur la colline d'Ausbergen à Mundolsheim. Et puis un lâcher de colombes est prévu à l'arrivée au sommet, me signale Dimitri Ramelot qui est sur place pour RTL. Un accident d'équitation ce matin en Normandie. Thaïs Méheu, une jeune cavalière de 22 ans, a trouvé la mort lors d'un cross disputé au Haras du Pin, comptant pour le championnat de France. La compétition a été arrêtée. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre la ministre des Sports et le président de la Fédération française de football? Hier, Noël Le Graët avait estimé à propos du débat sur l'homophobie dans les stades qu'on arrêtait trop de matchs. Roxana Maracineanu se dit étonnée par ces propos qui visent, selon elle, à la décrédibiliser. France-Albanie du foot, c'est l'affiche du jour. Les Bleus de Didier Deschamps jouent tout à l'heure au Stade de France, match qualificatif pour l'Euro 2020. Ils seront privés, vous le savez, de plusieurs titulaires, Pogba, Mbappé, Kanté, actuellement en tête du groupe, mais pas tout seul. Les Français seraient bien inspirés de l'emporter, car la qualification pour l'Euro est encore loin d'être acquise, Philippe Sanfourche.
Oui, on aurait pu imaginer qu'après 4 matchs disputés dans ces éliminatoires, la France bénéficie déjà d'un petit coussin de sécurité. Eh bien, il n'en est rien, avec 9 points au compteur. La Turquie et l'Islande sont à hauteur des Bleus et l'Albanie n'est qu'à 3 points alors que les deux premiers du groupe seulement seront qualifiés. Autant dire que ce soir et mardi prochain, face à Andorre, toujours au Stade de France, Blaise Matuidi n'envisage rien d'autre que de nettes victoires pour gommer un peu le mauvais souvenir de la Turquie en juin dernier.
Ça a été un avertissement. Je pense que le match, on est passé à côté, on en est conscient. Donc Voilà, c'est des points qu'on a laissés. C'est passé, il faut se servir de ça, bien sûr, pour ne plus répéter ce genre d'erreur et gagner, tout simplement.
Si le capitaine Hugo Lloris défend, lui, la thèse de l'accident, elle ne sera validée que par un sans-faute d'ici à la fin de ces éliminatoires. L'absence du trio de cadres Mbappé, Pogba, Kanté peut paradoxalement dynamiser une équipe renouvelée avec des joueurs revanchards tels que Corentin Tolisso ou Kingsley Coman.
Philippe Sanfourche du service des sports de RTL France Albanie, c'est à regarder sur M6 ou à écouter sur RTL dans un club Lisa spécial avec Bichente et Lizarazu entre 20h et 23h. En basket, l'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale du Mondial grâce à sa victoire sur la Lituanie 78-75. Le prochain adversaire des Bleus sera soit les États-Unis, soit l'Australie, soit la Grèce, soit la République tchèque. En rugby, troisième journée de top 14, Bordeaux-Bègles est allé gagner à Castres de justesse, 34-32. Depuis 17h30, Toulon accueille les Lyonnais du Loup. On en est pourtant, pour l'instant, pardon, à 3 partout, presque la mi-temps. En Formule 1, les tifosi déchaînés comme jamais. C'est en effet le jeune pilote Ferrari Charles Leclerc qui partira demain en pole position du Grand Prix de Monza. Et ce, une semaine seulement après sa victoire à Spa. Les courses, pronostic de Bernard Decroix pour le tiercé, quarté, quinté plus. Demain à Longchamp, le grand handicap de la rentrée, 16 partants. Bernard vous conseille le 4, Bagel, le 16, Villaro, le 14, Électron Libre, le 15, Vetroff, le 2, Ego Dancer, le 9, El Magnifico, le 8, Malo et le 12, Prestige Vendôme, je répète, 4, 16, 14, 15, 2, 9, 8 et 12, avec en dernière minute le 14 électron libre. Valérie Quintard, rebonsoir.
Rebonsoir.
Demain, ce sera assez beau, mais toujours un peu frais.
Alors, figurez-vous que quand même, à Aurillac, il fera le double de ce matin en température. On avait 3 degrés ce matin à Aurillac, et donc demain, il en fera 6. Tout est normal, ce qui veut dire que c'est quand même pas très très chaud. Maximum 18 degrés au réveil à Bastia, avec un ciel qui va se dégager par l'ouest. Donc, ça va quand même nettement s'améliorer. Les pluies vont peu à peu circuler et aller vers l'est. Elles vont très très lentement. C'est arrivé ce matin, et on va retrouver donc un ciel couvert et un petit peu pluvieux sur le flanc est, avec surtout quelques pluies en montagne, près des reliefs, et figurez-vous qu'on va aussi parler de neige puisqu'il y aura quelques flocons, bon, à 2000 mètres, d'accord, mais quand même, ce sont les premiers flocons. Dans le midi, attention, plein soleil et toujours beaucoup de vent, Mistral et Tramontane jusqu'à 80-90 km/h en pointe. Quant aux températures l'après-midi, c'est pas très très élevé, 17 degrés à Metz, au Havre et à Strasbourg, 18 à Reims et Lyon, 19 à Paris, 20 degrés à Tarbes, 22 à Nantes, 23 à Toulouse, 25 à Nice, maximum pour Montpellier avec 27 degrés.
Merci Valérie. Dans un instant, mon métier, ma passion, le rendez-vous avec Armelle Lévy qu'on retrouve désormais tous les samedis soirs. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un tapissier décorateur.
RT.